La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de la mêlée de l'info, où nous allons de nouveau débattre des sujets à la une de l'actualité nationale avec mes trois invités du jour, Alexandra Leliette, déléguée territoriale du MoDem pour la Haute-Garonne, Patrick Coste, ancien cadre de l'éducation nationale et ex-proviseur de lycée, professeur de philosophie, chroniqueur sur Radio Présence et auteur du livre « L'éducation face à l'impossible » publié récemment aux éditions Delga. Troisième invité de cette émission, Lucas Duval, membre du Parti Radical de Gauche et membre de la LICRA. Bienvenue à tous les trois, merci d'avoir accepté mon invitation à débattre ensemble. Le sujet politique de la semaine, c'est le tant attendu budget de l'État. Après son adoption vendredi en commission mixte paritaire, François Bayrou a soumis son projet de loi de finances 2025 lundi à l'Assemblée nationale. Une présentation suivie immédiatement de l'utilisation à deux reprises de l'article 49.3 par le chef du gouvernement. La première fois sur le projet de loi de finances dans son intégralité et la seconde sur la première partie du projet de budget de la sécurité sociale. Les motions de censure ont été rejetées à l'Assemblée et ce jeudi, le texte présenté par François Bayrou a été définitivement adopté au Sénat, donc par l'ensemble du Parlement. Estimez-vous que le Premier ministre n'avait pas d'autre choix que d'engager la responsabilité du gouvernement pour faire adopter son projet par les députés et qu'il a donc à ce titre bien manœuvré? Et que pensez-vous de ce budget 2025 qui prévoit un effort moindre que celui présenté par Michel Barnier en novembre dernier, en ramenant le déficit de l'État à 5,4% du PIB? Je rappelle que c'était 5% pour le projet de budget de Michel Barnier. Alexandra Leliette, vous avez la parole.
Bonsoir Éric. Comme vous l'avez annoncé dans votre question, François Bayrou a fait un choix, celui de la responsabilité. Le budget qui a été donc définitivement adopté aujourd'hui par le Sénat, c'est un budget qui est doublement historique. Il est déjà historique parce qu'il nous permet une sortie de crise. Une sortie de crise qu'on traversait depuis plusieurs mois, cette crise budgétaire, cette crise politique, sans précédent depuis, sous la cinquième d'ailleurs, entre un remaniement, un vote qui a censuré le gouvernement, et un risque qui était bien réel d'avoir un pays sans budget, dans une période qui est quand même assez complexe en France et au niveau international. Doublement historique aussi parce que c'est, rappelons-le, le fruit d'un accord des parlementaires. Alors certes, ça a été adopté via un 49.3, mais c'est surtout le fruit de compromis de parlementaires, députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire. Donc là, clairement, on a vu une situation où l'heure n'était vraiment plus aux postures, mais aux décisions. On a vu un budget adopté, alors le mot est un peu galvaudé depuis quelque temps, mais en grande responsabilité. Aujourd'hui, la question n'est plus du tout de la poser si ce budget est légitime, il l'est, mais plutôt de poser la question de l'après. Vous m'avez demandé mon avis sur ce budget. Est-ce que je suis contente? Est-ce que je suis satisfaite de ce budget en tant que tel? Je suis satisfaite qu'on ait un budget. Est-ce qu'il me va? Ben, pas totalement. Mais je crois qu'on a pu le voir depuis quelques jours, quelques semaines. Ce budget, chacun a des doléances à lui exprimer. Mais ce qu'a clairement dit François Bayrou hier à l'Assemblée nationale, c'est que ce budget ouvre la voie à des réflexions et surtout des pistes de travail et encore une fois une nouvelle méthode pour proposer et travailler sur le prochain budget 2026. Le budget qui est adopté aujourd'hui, soyons clairs, c'est pas un budget de gauche. Je pense que les invités pourront aller dans ce sens. C'est pas non plus un budget de droite et c'est clairement pas non plus un budget du centre. C'est un budget de responsabilité, c'est un budget qui existe et c'est un budget qui pose les bases de la suite. Je suis là aujourd'hui, comme vous l'avez dit, pour parler comme déléguée territoriale du mouvement démocrate. Je suis venue il y a quelques semaines, vous m'aviez demandé de réagir à la nomination de François Bayrou comme Premier ministre. J'en suis parfaitement heureuse, totalement heureuse. Ensuite, ce qui est bien clair, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas de porte-parole du gouvernement. Parce que ce gouvernement n'est pas un gouvernement MoDem. C'est un gouvernement complexe. Et la politique qui est menée aujourd'hui, ce n'est pas non plus une politique MoDem. mais c'est une politique qui nous permet d'avancer à une période où on n'a plus le choix.
Voilà donc pour la première intervention, donc la réaction d'Alexandra Leliette, d'une part l'adoption du budget par le Parlement, après deux motions de censure qui ont été rejetées, et puis après que ce choix de François Bayrou donc, d'engager la responsabilité de son gouvernement. Patrick Cosse, est-ce que vous saluez le fait que François Bayrou a engagé la responsabilité de son gouvernement sur ce coup-là? Et puis qu'est-ce que vous pensez du budget qui vient d'être adopté?
Alors qu'il a engagé la responsabilité de son gouvernement, la réponse est oui. Parce que nous étions de toute façon dans une situation qui est impossible. Je vais juste raconter une anecdote pour donner le cadre, en quelque sorte, de l'impossibilité dans laquelle on se trouvait. C'est vraiment une anecdote personnelle, mais quelquefois il faut dire des petites choses pour illustrer ce qui se passe sur des grandes échelles. J'ai mon fils qui travaille sur des ventes d'hôtels dans une grande entreprise, et c'est des sommes considérables qui sont engagées. Il a découvert dans les contrats une nouvelle ligne où les personnes ne s'engageaient pas sous condition du vote du budget. Donc ça traduit quand même un gel de l'économie par cette anecdote, et ça témoigne de cette impossibilité. Alors je crois que la dissolution, d'autres l'ont dit, a été une erreur manifeste, qui a créé, en plus d'une crise économique et d'une dette qui est devenue tout à fait exponentielle, une crise des institutions. Et il fallait trouver la formule qui permette d'arrêter cela. Et Bayrou a été, de ce point de vue-là, il a réussi cette étape-là. Alors ensuite, il a bénéficié, malgré tout, par rapport à la crise, d'un effet de maturation. Parce que passer déjà par un échec, ça contraint à guérir de la situation qui avait été traversée. Il y a une maturité dans la responsabilité. Et je crois qu'il y a, par rapport aux polémiques de pouvoir entre les différents groupes, quelque chose qui s'est déplacé dans cette période-là, du côté de la responsabilité. Et bon, et Bayrou, à cet égard, qui est un centriste, hein, qui donc, on va dire par définition, est un politique qui a cultivé depuis très longtemps le sens transversal des compromis. Bon, donc, d'une certaine façon, il a fait preuve, on y reviendra peut-être, hein, mais d'une certaine ruse, hein, en politique, qui est une qualité rendue célèbre par les Grecs, hein, dans le rapport aux politiques, et il n'en a pas manqué. Dans les effets de maturité, je pense qu'on en reparlera aussi, il y a le positionnement du Parti Socialiste, indéniablement, qui a été une des pierres d'appui, hein, dans cette conversion par rapport à la manière dont ça s'est passé. Le Parti Socialiste était aussi, lui aussi, du côté de la responsabilisation, mais il était aussi dans la situation de s'émanciper d'un certain positionnement des alliances qui avaient été les siennes, hein, dans la période antérieure. Voilà. Donc oui, hein, pour répondre... Alors est-ce que c'est le bon budget? Je veux le dire dans un mot familier. C'est un budget qui est un budget bricolé pour créer les conditions de la stabilité. Mais c'est évidemment pas un budget qui nous permet d'abord de revenir sur les difficultés dans lesquelles on se trouve sur le plan budgétaire, et de nous donner une véritable perspective constructive pour la suite. Donc c'est un budget de circonstances, avec un homme de circonstances, mais qui a permis de stabiliser la situation, et il le fallait.
Un homme de circonstances qui n'a pas de majorité à l'Assemblée. Lucas Duval, est-ce que vous êtes d'accord, à peu de choses près, peut-être, je n'en sais rien, vous allez nous le dire, à quelques nuances près, avec ce qui vient d'être dit par Alexandra Leliette, puis par Patrick Cosse?
Alors déjà bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation comme d'habitude. Pour revenir sur ce budget-là, bien sûr que c'est le budget que personne n'aurait souhaité. On aurait tous souhaité qu'il y ait un réel budget avec des réelles convictions politiques derrière le budget, parce qu'un budget, c'est la traduction d'une volonté politique.
Et d'un programme.
Et d'un programme.
De ceux qui sont arrivés au pouvoir.
C'est censé être ça que le vote d'un budget. Dans le cas dans lequel on est, effectivement, le gouvernement n'ayant pas de majorité, il était obligé de composer avec les membres de l'Assemblée nationale qui a été élue suite quand même à une réelle crise politique dans laquelle nous ne sommes pas encore sortis. Effectivement, vous l'avez dit, c'est un budget historique parce qu'il permet, en tout cas au moins momentanément, de sortir de la crise, ou en tout cas de pouvoir entrevoir d'autres choses que des textes budgétaires, parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent et qui sont primordiales, je pense, pour la vie des Françaises et des Français. Moi, j'aurais peut-être préféré que plus de parlementaires, au-delà du Parti Socialiste, jouent le jeu du débat démocratique. Parce qu'ils sont élus pour ça. Ils ne sont pas élus pour représenter leur parti, ils sont élus pour représenter la nation. Et par conséquent, ils sont donc élus pour travailler à l'intérêt général, voilà, et pas travailler à un intérêt de boutiquier. J'aurais préféré que des partis qui sont dans l'arc républicain, comme les écologistes, en tout cas pour une bonne partie, comme le Parti communiste, évidemment, prennent part à ces discussions, ce qui aurait fait très sûrement pencher le budget un peu plus à gauche, parce qu'il y aurait eu évidemment plus de gens pour le voter à gauche, ou plus de gens pour ne pas le censurer peut-être, c'est aussi ça. Donc si ce budget ne convient à personne, la gauche peut aussi être tenue pour responsable dans le fait qu'il ne soit pas assez à gauche, parce qu'effectivement il penche un petit peu à droite. En tout cas, moi, il y a des choses qui me déplaisent là-dedans.
On va y venir.
Mais en tout cas, voilà. Après, est-ce qu'il était obligé, comme il fallait que le texte soit adopté, soit, là, comme il a fait avec le 49-3, qu'il ne soit pas censuré, je ne vois pas trop comment est-ce qu'il aurait pu être voté par des socialistes, parce que le Parti Socialiste, s'il l'avait voté, en réalité, aurait approuvé le budget. Là, ils n'ont fait que dire « ce n'est pas notre budget, mais on ne fait pas tomber le gouvernement parce qu'il faut un budget pour la France ». Et c'était, je pense, la position la plus responsable à tenir. Je pense qu'il a été effectivement un peu obligé d'utiliser l'article 49, alinéa 3 de la Constitution.
Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de ce budget, même si on ne peut pas tout peigner, on n'a pas le temps pour ça. Mais donc, le budget Bayrou prévoit un effort de 50 milliards d'euros. C'était 60 milliards pour le budget Barnier. Ces 50 milliards sont répartis d'une part en 20 milliards de recettes supplémentaires et 30 milliards d'économies dans les dépenses. Alors qu'est-ce que vous inspire les choix du gouvernement Bayrou s'agissant des sources de recettes supplémentaires? Bon là c'est l'impôt, c'est les taxes. Et puis les coupes qui ont pu être opérées dans certaines dépenses. Et là ça concerne les administrations, les collectivités et certains secteurs d'activité. Alexandra Leliette.
C'est comme vous l'avez indiqué, c'est un budget qui est dans une période qui est particulièrement complexe, dans une période aussi de fort surendettement de la France. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la dette publique française dépasse les 110% du PIB, ce qui fragilise grandement notre souveraineté économique vis-à-vis des partenaires européens, mais surtout vis-à-vis des partenaires américains et chinois. C'est un budget qui est quand même un budget de compromis qui, justement, est dans cet équilibre entre refus d'une austérité trop forte et quand même un budget qui nous permet d'entrer, de mettre le pied dans la porte vers un assainissement de nos finances. On reparlera, je pense, tout à l'heure de la méthode et de l'ouverture de la réflexion qui est menée dans chaque ministère depuis ce matin, c'est-à-dire une réflexion profonde que doit conduire l'État, et je pense qu'on doit chacun aussi la conduire à notre niveau, les collectivités aussi, c'est-à-dire refonder en profondeur cette action publique. C'est un budget d'effort partagé. à commencer par le gouvernement, par les ministères qui ont fait des coupes fortes dans leur budget de fonctionnement, avec un effort qui est partagé par les collectivités territoriales. Et il faut quand même souligner qu'il y a eu beaucoup de progression par rapport au budget très, très dur qui était envisagé au début, et saluer le travail des sénateurs. Et c'est un budget qui demande aussi quelques efforts exceptionnels au monde économique. Et je pense à certaines critiques qui ont pu être exprimées par des grands dirigeants, que je comprends. Parce que si les impôts menaient au paradis, la France serait quand même un lieu d'Éden. Mais nous avons aujourd'hui une situation qui nécessitait un travail et un effort qui sera collectif. Je me félicite quand même qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts pour les classes moyennes, qu'il y ait également la préservation des domaines régaliens, et on sait les enjeux sont forts pour les prochains mois, des enjeux de justice, des enjeux d'intérieur, des enjeux vis-à-vis de nos armées, des enjeux qui sont également préservés. Alors c'est un sujet, évidemment, j'aimerais que beaucoup plus soit fait parce que la situation est dramatique, mais c'est dans le domaine environnemental et de lutte contre le réchauffement climatique. On a quand même un budget qui nous permet d'investir dans le futur, qui investit dans cette industrie décarbonée. Et on sait à point ici, à Toulouse, où nous enregistrons ce soir, où nous passons, pardon, non, l'émission direct, ce soir en direct. Oui, c'est un sujet qui est d'enjeu pour notre compétitivité et pour notre territoire, cette fameuse décarbonation industrielle. Et c'est surtout un sujet qui permet de préserver l'investissement pour les plus vulnérables et pour la santé. Là encore, il y a encore beaucoup à faire. Mais au moins, je pense que notre service public, notre action publique de solidarité est préservée mais devra être revue en profondeur pour faire mieux. Mais cet effort national, donc, il est présent. C'est, comme je vous disais, un budget d'efficacité et qui méritera cette réflexion. Et je pense qu'on peut vraiment se féliciter du travail vraiment qui a été conduit par les parlementaires de nombreux bords politiques dans les deux chambres pour permettre ces compromis.
Voilà, donc Alexandra Lelièvre voit plutôt un certain équilibre hein, dans les efforts qui sont demandés aux uns et aux autres. Est-ce que c'est aussi votre avis, Patrick Coste ?
Qui a eu un travail d'équilibriste, qui
était
conduit par le Premier ministre, sans aucun doute. Alors ensuite, je crois que dans les conditions dans lesquelles on était, de la période, mais peut-être aussi plus profondément, j'y reviendrai, la marge de manœuvre, de toute façon, pour creuser profond dans les questions budgétaires, ça m'a paru tout à fait impossible. Donc, autrement dit, c'est un budget d'équilibre, mais qui, quand même, est largement travaillé dans des effets de surface par rapport à la situation. Sur le fond, hein, on se retrouve dans une situation, il faut pas le perdre de vue, ou quand il s'agit de prendre une décision pour prélever davantage sur la production de richesses hein, et sur le capital financier, il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas simplement sur des décideurs hexagonaux. Ça doit toujours être pensé dans des connexions et des articulations avec des effets de globalisation. Et donc, par conséquent, les marges de manœuvre en termes de décision, c'est la réaction d'Arnaud. Par rapport à ça, hein, mais qui sur le plan moral n'est peut-être pas un exemple de vertu patriotique par rapport à ce qu'il a formulé, mais il indique quand même une sorte de versatilité qui est liée au phénomène de l'argent, qui est susceptible d'être déterritorialisé par rapport aux décisions qui peuvent être prises, et donc l'équilibre Il n'est pas simplement un équilibre hexagonal, il est aussi un équilibre qui doit se prendre par rapport à des états limites qui peuvent se jouer du côté de la globalisation. Alors ensuite, il y a parmi les équilibres à tenir, politiquement aussi, hein, pas simplement sur le plan budgétaire, des questions qui ont toujours à voir avec le rapport de la division du riche et du pauvre. Hein, il y a un phénomène, là aussi, qui est celui de la période où il y a des enrichissements qui sont dénoncés du côté du grand patronat, du côté des actionnaires. Et donc, par conséquent, inévitablement, cette inégalité, c'est un rapport de politique qui est défavorable aux couches populaires. Hein, ça se fait évidemment au détriment du travail par rapport à ces phénomènes d'accumulation. Et là, pour le moins qu'on puisse se dire, c'est que l'équilibre ne peut pas être refait dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Hein, c'est un équilibre qui se prend sur un état de déséquilibre complet. Hein. Donc par conséquent, alors ensuite sur le fond, mais ça c'est évidemment pas la question dans laquelle on peut s'enfoncer et véritablement travailler. Mais derrière tout cela, il y a un phénomène qui est un phénomène de la dette. Hein, avec 110%, ça a été cité, du PIB, 3 300 milliards de dette. Ouais. Donc ça fait depuis les années 80 qu'il y a une accumulation, une sédimentation de cette dette. Donc là, il y a un problème structurel de la France par rapport à ces modèles de gestion. Et on a un système français qui est celui qui est un système social, hein, avec une conception de la retraite par répartition, une sécurité sociale qui nous vient de l'après-guerre, et que les gens de gauche dont je suis, nous y sommes très, très attachés à ce système français. Mais là aussi, sur le plan de la globalité, on est rentré dans les États-Unis en est un exemple flagrant, dans un capitalisme complètement dérégulé. Et donc ces formes de distribution à la française sur lesquelles on essaye de se tenir et que l'on essaye d'entretenir, dans ce contexte-là, sont mis en péril, et qui est un des éléments d'explication quand même de la dette. Donc venir s'attaquer au budget rééquilibré en lui donnant une version de gauche, on va dire que l'exercice, pour le moins, est athlétique.
Oui. Lucas Duval.
Je vais d'abord parler, vu qu'on en parle à l'instant, de la dette. Effectivement, 110% du PIB, ça a été dit, 3 300 milliards, Eric, vous disiez, je ne vais pas revenir sur ces chiffres-là. Cependant, il y a quand même quelque chose qui est important dans le phénomène de la dette, c'est que si on regarde les pays les plus endettés, on parle toujours de la France, de l'Espagne, des pays du sud de l'Europe, parce que nous serions des dépensiers vis-à-vis de nos collègues européens plus du Nord, qui eux seraient dans la dette la plus petite possible. Mais on parle assez rarement des États-Unis, qui ont une dette mirobolante, sauf que eux, ils ont une chose, c'est que leur économie, c'est une économie qui pèse, c'est quoi, c'est 18 000 milliards ou 20 000 milliards de dollars. Peut-être qu'une des solutions, et je pense que c'est quand même une des questions qu'on va devoir se poser de manière très urgente quand on voit le fou qui est à la tête des États-Unis, c'est que si on souhaite peut-être, dans ce monde capitalistique totalement dérégulé, pouvoir peser un petit peu, c'est qu'on pense et qu'on agisse en européen. Que la dette, ou au moins une partie, puisse être soutenue, ou en tout cas prise en charge par la Banque Centrale Européenne. Ce qui pourrait permettre à des États comme la France de plus facilement se désendetter, parce que, je sais pas, par exemple, si on prenait 60% de la dette, si on s'en tient aux critères de Maastricht, qui seraient pris en charge par l'Union Européenne, eh bien, on pourrait emprunter à des taux très très bas sur 60% et à des taux un peu plus élevés sur le reste. Donc ça nous permettrait d'avoir une charge de la dette qui serait un peu plus supportable.
Parce que ce qui compte, c'est la charge de la dette, effectivement.
C'est ça. Et donc ça pourrait permettre, du coup, d'avoir une dette un peu plus supportable. Bon, c'est un débat qui serait bon d'être mené, mais qui n'est pas celui d'aujourd'hui.
Non.
Juste, je vais faire une digression par rapport au fait que ça serait athlétique. J'ai vu un article passer aujourd'hui, justement, sur le budget, comme quoi la coupe dans le ministère du sport, il y a eu 400 et quelques athlètes qui ont fait une pétition. Et a priori, ce serait la ministre elle-même qui aurait un peu initié cette pétition-là. Donc bon, bref. Et ensuite, sur la question donc du budget en lui-même, évidemment, moi je suis de gauche, j'aurais préféré que les gens qui ont toujours plus payent un peu plus d'impôts et que les gens qui ont toujours moins, on les laisse comme ils sont ou qu'on leur en demande un peu moins. Parce qu'en fait, en réalité, il n'y a jamais eu autant d'argent en France qu'aujourd'hui. En France et dans le monde, d'ailleurs. Et en fait, les plus riches qui continuent de s'enrichir encore plus et les plus pauvres qui continuent de devenir encore plus pauvres. Et c'est un des problèmes majeurs. Et c'est vrai, vous l'avez dit, les propos de Bernard Arnault qui sont juste pas entendables, en fait. La personne, on va dire, lambda qui entend ça, elle va se dire, mais il est complètement déconnecté. Parce que moi, je suis de gauche, j'ai pas peur d'utiliser ce mot. Payer de l'impôt, c'est du patriotisme. C'est participer à la nation.
Bernard Arnault, il en paye beaucoup, même.
Bien sûr, mais je suis pas sûr que 1% d'impôt en plus, ça lui change sa fin du mois. Ni même à LVMH.
Lui, certainement pas.
Voilà. Sauf que dans les comptes publics de la France, peut-être que 1% d'impôt en plus sur l'immense masse financière que représente LVMH et la famille Arnault, mais peut-être que ça ferait un petit peu plus dans le budget de l'État. Donc je vais pas m'éterniser, je vais pas rentrer dans le détail parce que les chiffres... on va pas parler de chaque ministère. Évidemment qu'on aurait pu faire mieux sur l'écologie, évidemment qu'on aurait pu faire mieux sur l'éducation et qu'on devrait faire mieux parce que ce sont des chantiers prioritaires. Mais voilà, je pense que le 20 milliards en recettes, 30 milliards en économie, peut-être que ça aurait pu être 30 milliards en recettes, 20 milliards en économie. Voilà, ça c'est mon avis et je pense que...
C'est l'avis de l'homme de gauche.
Absolument.
On peut le comprendre. Alors, il y a deux points sur lesquels je voudrais vous entendre. Alors, la baisse des dotations de l'État aux collectivités, finalement, a été fixée à 2,2 milliards. C'était 5 dans le gouvernement Barrier, donc c'est plus de deux fois moins. Bon, est-ce que vous pensez que ça sera, après cette baisse très large, très, très importante par rapport à ce qui était prévu dans le budget Barnier, ça sera plus supportable pour les collectivités ou est-ce que ça reste encore difficile d'absorber une baisse comme ça? Et puis, il y a un point, là, moi, qui... personnellement, m'a pas mal choqué, c'est que jusqu'alors, le seuil en deçà duquel les petites entreprises n'étaient pas assujetties à la TVA, il était 37 500 euros de chiffre d'affaires auparavant. Maintenant, ça a été abaissé à 25 000, ce qui va avoir des conséquences terribles pour énormément d'auto-entrepreneurs en France. Il y en a 250 000, je le rappelle. Est-ce que cette mesure vous semblait souhaitable? Est-ce qu'il fallait en passer par là, Alexandra Leliette?
Alors, concernant le monde économique, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la question des grands patrons, on vient d'en parler. On peut regretter certaines déclarations de Bernard Arnault ou d'autres, mais en même temps, il y en a marre de toujours taper comme ça sur ces industriels qui réussissent. C'est terriblement français parce que quand on tape sur ces grandes boîtes, c'est un petit peu comme si en France, on tapait dans le monde du football sur Mbappé. Quand on tape dans le monde du rugby sur Dupont, on peut quand même se féliciter d'avoir quelques grands champions et se dire qu'ils apportent quand même des choses à notre pays. Alors oui, ils ont des efforts à faire et d'ailleurs, il y a des efforts ponctuels qui seront demandés. Là, donc, dans ce budget, il faut aussi voir le monde économique comme un allié stratégique et pas seulement une cible. Pour les grands patrons, mais il y a aussi les petits entrepreneurs. On parlait tout à l'heure du manque de patriotisme de certains grands patrons. Je suis pas tout à fait d'accord pour les grands patrons, mais je suis surtout en total désaccord, même si c'était pas tout à fait votre point, donc je vais pas vous mettre des mensonges dans la bouche, sur ces patrons et sur ces entrepreneurs qui s'engagent pour le pays, qui s'engagent pour l'économie et qu'il faut aider. Alors,
Certes, la situation est compliquée. Certes, ils ont des efforts à faire. Mais dans le même temps, on est aussi dans un pays où on l'entend et on a toujours soutenu notre monde économique et les PME, TPE, TPI. J'en veux pour exemple l'approche que nous avons eue pendant la crise Covid et l'aide qu'on a pu apporter à toutes ces entreprises. Moi, j'ai eu l'occasion de vivre dans plusieurs pays européens et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de voisins qui nous regardaient et qui regardaient les entreprises avec beaucoup d'envie. Alors aujourd'hui, ils ont un effort à faire, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que demandent véritablement les entrepreneurs et les chefs d'entreprise, même des plus petites structures ? C'est surtout d'avoir un système qui soit plus simple et qui soit plus lisible. Donc les efforts qu'il va falloir faire pour aider ces entreprises, ça va au-delà des questions de fiscalité et budget. C'est surtout un effort de simplification, de lisibilité et de visibilité dans le temps. Je sais, c'est un petit peu disruptif en cette période d'essayer de faire des paris sur l'avenir, mais je peux vous promettre que pour eux, c'est véritablement important. Donc ça, c'est un point qui me paraissait indispensable. Je me permettrai d'aller aussi de revenir sur les propos de mon voisin concernant l'Europe. Et vraiment, je vous remercie d'avoir abordé cette question parce que c'est aussi un sujet que j'ai à cœur et que je souhaitais voir aborder. Et je vais aussi là aller dans votre sens pour continuer. On a évidemment un travail à faire au niveau européen vis-à-vis des voisins américains et chinois qui sont dans une autre conjonction, notamment du fait du dollar et autres. Mais il faut surtout qu'on apprenne au niveau européen, c'est un petit peu comme au niveau français, à jouer un peu ensemble.
Ça oui.
À parler d'une seule voix
et
à faire voilà. Mais comme vous l'avez dit, la pédagogie c'est la répétition et je pense qu'on va pouvoir le répéter à chacune de vos émissions si possible.
Alors sur la question que j'ai posée tout de même pour les auto-entrepreneurs, donc ce seuil de chiffre d'affaires qui donc a été abaissé de 37 500 à 25 000 euros. Et seuil à partir duquel ils vont devoir être assujettis à la TVA, c'est 20% hein, pour eux. Et vous pensez que c'était une mesure qu'il fallait prendre, ça? Vu ce que ça va rapporter, parce qu'il y en a certains, j'en connais moi, ils pensent qu'ils ne vont peut-être pas réussir à survivre à ça.
L'État, encore une fois, n'est pas là pour faire tomber ces PME, pour faire tomber ces entrepreneurs. Les décisions sont prises en discutant avec les différents représentants économiques, avec les différentes fédérations. On parlait au tout début du fait d'avoir un budget qui déplaît à un certain nombre d'acteurs. Oui, ça déplaît à certaines fédérations qui auront l'occasion de faire entendre leur voix et de demander certains correctifs dans l'avenir. Mais ça nécessite surtout une réflexion en longueur et en profondeur. Et je pense que vraiment, ces petits entrepreneurs, ça va au-delà de la question de la TVA pour pouvoir se projeter dans l'avenir.
Bon, Patrick Coste.
Oui, il y a un point sur lequel moi je tiens ferme dans mes positions, c'est que je pense que un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui est engagé dans son travail, qui conduit des systèmes et des hommes. Donc c'est une activité difficile et qui mérite une juste rétribution. Sauf que là, on est dans un monde où il y a une disproportion gigantesque entre les uns et les autres. Et là, je désigne une anomalie avec laquelle je ne peux pas être d'accord. D'autant que je suis tenté de penser, je vais faire une vieille analyse marxisante, mais quand il y a de toute façon un rapport de travail, on est susceptible, dans ces phénomènes d'accumulation, de prendre une part de la valeur sur le travail des autres. Et que donc c'est un système, ça, d'accumulation des profits. Et on est dans une période où on va dire que le luxe de Versailles à côté, c'est du petit bras par rapport aux grands écarts dans lesquels nous sommes. Et ça, je le désigne comme étant une anomalie. Alors, ça ne concerne pas les personnes, mais ça concerne évidemment un modèle de société et de répartition. Et là, je pense qu'il y a une difficulté. Alors, les impôts, et je reviens à mon argument précédent, ce sont des techniques de régulation entre les accumulations et la redistribution. Voilà. Donc par conséquent, il y a évidemment tout un potentiel de la loi qui est possible pour recréer des conditions de proportionnalité sur la division du riche et le pauvre. Mais comme je l'indiquais, c'est ce pourquoi le propos de M. Arnaud est intéressant du point de vue du symptôme qu'il représente. C'est qu'il indique, mais je vais aux États-Unis et je suis pris là dans des phénomènes d'enthousiasme par rapport à l'accumulation qui ne correspond absolument pas à ce que moi je peux faire ici. Et donc évidemment, comme l'argent est presque devenu un phénomène de virtualité, à ce moment-là, la question de la régulation par des techniques qui sont celles de l'impôt et de la redistribution est mise en situation de difficile. Alors, je reviens sur la thématique de l'Europe. Hein. Ce sont des combats qui sont des combats de guerre économique actuelle. Je crois qu'on peut parler comme ça maintenant. Hein. Je crois même qu'on peut aller plus loin parce que dans la politique états-unienne en ce moment, une des grosses forces de frappe des États-Unis, c'est quand même leur armement, hein, et qu'ils jouent cette carte-là par-dessus comme un chapeau par rapport à la guerre économique. Hein. Donc là, il y a évidemment des rapports de confrontation de forces dans la logique du capital global qui sont en train de se jouer, par rapport auxquels la France, à cet égard, est trop petite pour faire face. Donc on a besoin effectivement de composer des collectifs. C'est vrai au niveau des États, c'est vrai par rapport à la possibilité de faire des régulations, mais j'aurais envie de dire aussi, c'est vrai de par les internationalismes qu'il faut développer en termes d'opposition, en termes de résistance par rapport à ces modèles. Et donc il y a des collectivités à construire, des ensembles à construire pour faire face à ce qui est en train de se passer en ce moment.
Alors, je n'ai pas ma réponse à
les
entrepreneurs, mais on n'a plus trop le temps.
Sur les entrepreneurs, je suis très surpris que, y compris le Premier ministre du Modem, ait accepté ce coup de canif par rapport à ce plafond à 25 000 euros de chiffre d'affaires
au lieu de 37 000. Voilà, il y en a qui
inévitablement va avoir un effet sur les petites entreprises et les moyennes entreprises, qui est un maillage quand même de la production française extrêmement important. Quoi.
Lucas Duval, pour
je vais faire assez rapidement. Sur les collectivités territoriales, vous avez posé la question.
Oui.
Il est quand même bon de rappeler que on a imputé aux collectivités territoriales des maux dont elles n'étaient en réalité, je pense, pas responsables, parce que les collectivités doivent voter des budgets à l'équilibre. C'est dans la loi. Bon, évidemment, il y a parfois des petits dérapages, mais les préfectures sont là pour veiller au grain. Donc 2,2 millions, bon, j'imagine qu'elles prennent 2,2 millions, donc j'imagine qu'elles prennent un peu la part aussi dans l'effort collectif à faire, mais je tenais juste à rappeler ça.
En tout cas, c'est nettement moins que ce qui était prévu initialement.
C'est ça. Et donc ça, pour le coup, c'est bien. Sur la TVA, pour le président de la République, qui était pour la Startup Nation, c'est quand même assez particulier parce que les startups en général naissent de l'idée de quelqu'un. Et donc, s'il ne peut pas faire ça, 37 500, on en arrive à 25 000, il faut rappeler 20% de TVA plus l'URSSAF. C'est vrai que ça va être très compliqué.
Pour certains, ça va être impossible.
Après, très très rapidement, je tape pas sur les gens qui réussissent, je dis juste que l'impôt, comme il est imaginé, doit être progressif et chacun doit devoir payer l'impôt à la hauteur de ce qu'il peut. Et quand on voit dans les faits, les 0,1% les plus riches, les 0,1% des entreprises qui font le plus de bénéfices aujourd'hui ne payent pas l'impôt à la hauteur de ce qu'elles pourraient payer et du coup réussissent par divers mécanismes fiscaux à échapper à cet impôt-là et donc à échapper à la participation nationale. Quand je vois que Bernard Arnault, en taux effectif, est imposé en pourcentage moins que moi, ça me choque. Et je pense que ça choque tous les auditeurs qui nous écoutent.
Voilà, nous allons devoir conclure ce premier débat. La France a donc enfin un budget 2025. Maintenant, il va falloir l'appliquer et le tenir, ce qui est une autre affaire. Petite pause maintenant dans cette émission. Rendez-vous dans une vingtaine de secondes pour un deuxième débat avec mes trois invités. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne. Je retrouve mes trois invités, Alexandra Leliette, Patrick Coste et Lucas Duval. Pour un second débat, nous allons le consacrer aux propos qu'a tenu Jean-Luc Mélenchon samedi dernier. Et c'était à Toulouse, à l'université Jean Jaurès, lors des rencontres nationales des quartiers populaires organisées par la France Insoumise. Le leader des Insoumis a créé la polémique, entre autres en reprenant à son compte l'expression « grand remplacement ». Je vous propose d'écouter l'extrait concerné dans son intervention.
Oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Oui, monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Quel est ce remplacement ? Ce remplacement, c'est celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Car non, le futur n'est pas voué à être le passé toujours recommencé. Et il y en a assez de passer son temps à faire l'apologie de la tradition. La réalité, c'est qu'il y a une nouvelle France. La ruralité qu'on nous jette à la figure n'existe pas. Cessez donc d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb, cette partie du pays est à nous, c'est notre patrie, c'est notre pays.
Extrait du discours de Jean-Luc Mélenchon samedi dernier à Toulouse à l'université Jean Jaurès. Alors, qu'est-ce que vous avez compris des déclarations de Jean-Luc Mélenchon, des expressions qu'il a employées et des concepts qu'il a développés dans cet extrait ? Qu'est-ce qu'ils disent, selon vous, de sa vision de la France et de l'avenir qu'il souhaite pour elle et pour ses citoyens ? Patrick Coste, alors vous, je sais que vous avez écouté le discours dans son intégralité.
Alors j'ai pris cette peine, mais bien volontiers, parce que c'était intéressant. Je vais me mettre un peu dans la situation, j'ai employé un gros mot là, de tolérance épistémique. Ce qui veut dire qu'en fait, même si ce sont des formes de pensée qui sont loin de moi, j'ai essayé de les comprendre et de me situer au moment où je n'étais plus d'accord. Hein. Alors, d'abord, faire un petit peu le tour de la situation. Je l'ai écouté. C'est pas un scoop, hein. Il a fait preuve de ce jour-là d'un style indéniable. Il fait partie des meilleurs tribuns de la période. Il s'adressait à des étudiants, et j'aurais envie de dire que sa fibre, il a été prof, hein, Mélenchon, sa fibre de professeur est ressortie. Hein. Il était dans une démarche vraiment d'adresse vis-à-vis des étudiants et de la jeunesse. Il les appelait, et ça j'ai trouvé ça intéressant, à leur responsabilité politique. On est dans une situation de crise, il ne convient pas de tourner le dos. Il y a une éthique à tenir pour préparer l'avenir, et il a vraiment sermonné sur cette responsabilité. En bon humaniste, hein, très 19e, très hugolien finalement dans la manière de faire. Mais ça m'a intéressé parce qu'on est quand même dans des comportements assez répandus, nihilistes, de dépolitisation ici et là. Or, j'ai entendu ce jour-là un véritable souffle politique dans la façon dont cette assemblée s'est tenue. Alors ensuite, au-delà, si vous voulez, des éléments formels, sur le plan du diagnostic. Ça revient un petit peu à ce que j'ai moi-même exprimé un peu avant. Le diagnostic de la catastrophe vers laquelle on va par des logiques de profit destructrices par rapport à un avenir où il s'adressait vis-à-vis des étudiants, il a été bon dans la présentation de ce diagnostic. Alors ensuite, ce qui fait un peu sa caractéristique, hein, c'est que bon, il y a sur la démarche qui est la sienne, il y a une pensée politique, hein, que j'ai essayé de repérer. Il s'est déclaré comme étant un marxiste, mais un marxisme qu'il a converti à des dimensions écologiques. Alors je pense qu'une des références, j'en fais assez rarement à ce micro, mais quelqu'un qui lui sert de ressource sur le plan théorique, c'est un Japonais, en fait, qui s'appelle Koike Sato, qui a développé des thèses de marxisme adaptées à l'écologie. Et je pense que beaucoup de ses références se sont situées là. Ensuite, dans son explication, dans son développement, plutôt que le grand remplacement zémourien, lui, il a fait l'apologie du créolisme.
La créolisation. Notre société se créolise, voilà. La France se créolise.
Et il faut quand même se dire là aussi que sur le plan théorique, dans le mouvement qui le sien, ça renvoie à une conception de la construction de l'hégémonie politique, où il s'agit pas simplement de renforcer un prolétariat contre la bourgeoisie, mais qu'il y a des communautés hétérogènes et qu'il s'agit d'arriver à composer avec un certain nombre de ces communautés pour arriver à développer une hégémonie, ce qui permet quand même d'expliquer un certain nombre de ces stratégies électorales qui sont les siennes. Hein. Bon, ensuite, là où moi je vais avoir une position limite, c'est qu'il a un idéal, qui est un idéal de communauté, pas très loin de la définition du communisme bienheureux et de la répartition entre les hommes des besoins. Bon, et cet idéalisme, à mon avis, ne prend pas la mesure, je vais être provocateur, d'un certain génie qu'a eu le capitalisme et qui fait qu'à ce moment-là, les rapports de force, ils ne sont pas forcément du côté de ces valeurs, de ces idéaux, et que donc, par conséquent, s'il s'agit de se poser la question du que faire, il faut trouver la bonne place, la bonne mesure dans ces rapports de force. Et là, entre son idéal et sa conception de rupture par rapport au capitalisme, j'aurais envie de dire qu'il me semble que l'enjambée est empressée et très aventureuse, parce que quand on est dans des idéaux politiques de ce type-là et qu'on retombe sur ses pieds, en général, ça se traduit par un durcissement du menton et de l'autoritarisme, parce qu'on n'arrive pas à tenir les équilibres des rapports de force, d'où la société intervient. Et donc, c'est ce pourquoi sa logique de rupture, y compris avec le président de la République, l'activisme dont il fait preuve, qui est un jeu de massacre par rapport au pouvoir. Et là, en termes de démarche, de stratégie par rapport à une conception progressiste et de gauche, c'est une limite sur laquelle je ne peux pas le tenir, et ce sera là que j'exprimerai mon désaccord.
Bon, alors là, c'est une réflexion vraiment globale sur l'ensemble de l'intervention de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je reste un peu sur l'extrait que j'ai passé, parce que c'est celui-ci qui a suscité la polémique, des réactions très vives. Vous, Lucas Duval, comment vous l'avez reçu, ce passage? Qu'est-ce que vous y avez compris?
J'ai compris que ce que je pense sur la France insoumise est fondé. Je vais m'expliquer.
Oui.
Je pense que la France insoumise est un parti raciste. Alors là, j'imagine que les auditeurs qui nous écoutent...
Il faut dire raciste ou racialiste?
Raciste. Parce que le fondement du racisme, c'est essentialiser une personne sur sa couleur de peau, sa religion réelle ou présumée, une nationalité réelle ou présumée, des origines réelles ou présumées. Et c'est exactement ce que fait Jean-Luc Mélenchon dans cet extrait-là. Il dit... Alors, je n'ai pas noté tout à fait exactement. Il dit « Je suis né au Maghreb et je sais que vous aussi ». Alors qu'en réalité, excusez-moi, mais l'immense majorité des personnes qui vivent dans les quartiers, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Paris, que ce soit n'importe où, en fait, sont des personnes qui sont nées en France, leurs parents sont nés en France, leurs grands-parents parfois sont nés en France. Et donc, en fait, ce sont des Français, parfois même plus Français que moi, qui ai des origines espagnoles et pourtant un nom qui fait qui vraiment très français.
Oui,
quoi. Et en fait, à travers ça, Jean-Luc Mélenchon, même s'il utilise la thèse du grand remplacement un peu pour l'ironiser, en fait, lui théorise littéralement le fait que c'est vrai, il y a un grand remplacement. Lui, il parle des générations, mais dans ce qu'il dit, il parle de Nouvelle France, et selon lui, la Nouvelle France, c'est la France des quartiers, et donc, par conséquent, si on tire le fil, c'est la France des Maghrébins, la France
En politique,
et même en rhétorique, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on ne dit pas. Quand Jean-Luc Mélenchon dit « La Nouvelle France, c'est vous, c'est moi, je suis né au Maghreb, vous aussi », Il dit ça, mais on sait très bien que ce qu'il y a derrière, c'est vous, les personnes musulmanes ou d'origine musulmane, vous, les personnes maghrébines ou d'origine maghrébine, c'est pour moi qu'il faut voter. Oui. Et donc, on en arrive à une essentialisation, littéralement, et je n'ai pas d'autre mot, des personnes, alors que la France, c'est tout sauf ça. Et donc, c'est pour ça que je dis que la France insoumise, à travers l'image de Mélenchon, est un parti raciste. Et en étant un parti raciste, il s'exclut d'office du champ républicain. Parce qu'on ne peut pas, quand on est représentant politique, quand on est même citoyen, en fait, en réalité, mais quand on est représentant politique, d'autant plus, on ne peut pas prôner des choses qui sont illégales et encore plus anti-républicaines dans les valeurs.
Mais ce qu'il a dit aussi de la ruralité, justement, de la France rurale, c'est assez étonnant.
J'y viens. Est-ce que moi j'irais dire à une gamine qui me dit comment faire pour voter pour vous, prends ta mobylette et va dans les ruralités convaincre les fascistes de voter à gauche? Excusez-moi, mais il a littéralement dit que toutes les personnes qui vivent en ruralité sont des fascistes. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de la folie de ce type, c'est parce que ça déborde tellement ça me met en colère, et voilà, ça prouve encore une fois la stratégie de la France insoumise, une stratégie de trumpisation de la vie politique. On l'a encore vu hier soir après le vote de la motion de censure, les visuels dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot, les visuels dégueulasses qui comparent le Parti Socialiste au Rassemblement National. Il participe à la trumpisation de la vie politique française et par conséquent à la dépolitisation, alors qu'il, justement, cherche à politiser, selon lui, ceux qui ne votent pas, eh bien, il participe à la dépolitisation complète du débat démocratique.
Et vous pensez aussi qu'ils essayent de monter certaines catégories de Français contre d'autres ?
Oui, en disant ça, ils jouent la France rurale contre la France des quartiers, qu'il appelle la Nouvelle France. Ouais.
Les contradicteurs de Jean-Luc Mélenchon l'accusent, effectivement, de monter les Français les uns contre les autres. Alexandra Leliette, vous, quand vous avez entendu, en tout cas, cette partie du discours de Jean-Luc Mélenchon samedi dernier à Toulouse, comment vous avez réagi ?
Je suis restée interdite. Je pense que nous avons là un fait qui fera rarement autant l'unanimité parmi vos invités ce soir. Je pense qu'on a tous été éminemment choqués et scandalisés par ce qui se passe. Quel que soit l'objectif derrière l'utilisation de ces termes de grand rassemblement,
de grand remplacement, de
France raciste, de Nouvelle France, quel que soit le calcul philosophique, et dans ces cas-là, c'est vraiment des termes dont l'utilisation même est dangereuse et antinomique avec le débat démocratique. Alors c'est peut-être du petit calcul de politique politicienne, hein. Peut-être que Monsieur Mélenchon et ses amis ont leur calcul, leur pourcentage, les chiffres des bureaux de vote, les études de l'INSEE sociologique, et c'est un pari. Dans ces cas-là, là encore une fois, je vois pas trop le résultat, parce qu'on a eu quelques élections partielles ces dernières semaines, que ce soit en Isère et Villeneuve-Saint-Georges, et fort heureusement, ça a été un pari perdu. J'ai trouvé ça assez intéressant d'avoir ces deux thèmes qui sont abordés ce soir, parce qu'on est vraiment sur une approche antinomique. Juste avant, on a parlé de la responsabilité des dirigeants de s'unir pour un budget tout en assumant leurs différences, leurs combats et leurs oppositions constructives. Là, on est vraiment sur l'antagonisme absolu, l'antagonisme territorial, l'antagonisme humain. C'est quelque chose qui me révolte profondément. Moi, je suis d'une famille politique, issue d'une famille politique qui partage des valeurs totalement inverses. Moi, je suis une personne qui est justement le fruit d'un grand héritage politique et de valeurs, qui est un héritage qui a été formé par des grands hommes, par des grandes femmes, que ce soit Schumann, que ce soit Sangnier, je sais que c'est une personne que vous appréciez, que ce soit François Bayrou, que ce soit Marielle de Sarnez. Pour toutes ces personnes, ce qu'elles m'ont appris, c'est que la politique, c'est pas dresser les Français les uns contre les autres, c'est au contraire construire un avenir commun. c'est s'enrichir les uns les autres de nos différences. Et c'est surtout ne pas voir l'autre comme un ennemi, ne pas considérer le « nous » comme exclusif, mais quelque chose, vraiment, un projet de société tourné vers l'autre. Donc, que dire de plus, hormis j'ai presque envie de dire mon désarroi. Désarroi face à ce type de réaction et ma peur.
Alors, juste, il nous reste très peu de temps. Lucas Duval, sur le point qu'a soulevé Alexandra Leliette, s'il y a une stratégie électorale derrière, est-ce que vous pensez qu'elle peut être gagnante? Effectivement, il y a eu une législative partielle en Isère et une municipale partielle à Villeneuve-Saint-Georges. On a beaucoup parlé dans les médias où, finalement, M. Boyard n'a pas été élu alors que tout le monde pensait qu'il pouvait l'être. Mais est-ce qu'à terme, ça peut être gagnant tout de même, cette stratégie?
Alors moi, je pense que c'est je vais être très, très bref. Hein. Je pense que c'est une stratégie perdante, qui a déjà montré que c'était une stratégie perdante, et je le dis parce que nous sommes à Toulouse et que nous sommes engagés toutes et tous, j'espère qu'il y aura une liste de gauche, une liste d'union de la gauche, mais c'est-à-dire tout le monde sauf François Picmal, parce que François Picmal est allé s'afficher fièrement à côté de Jean-Luc Mélenchon la veille qu'il tienne ses propos. Agathe Roby est allée s'afficher fièrement la veille que Mélenchon tienne ses propos. Donc j'espère, et j'envoie un message à tous mes camarades de gauche, qu'il y aura en 2026 une liste d'union de la gauche et une liste de gens qui ne sont pas de gauche.
Et bien voilà quelque chose dont nous reparlerons sans doute dans cette émission. Fin de cette 181e mêlée de l'info. Un grand merci à vous trois d'y avoir participé. Je rappelle avant de conclure la parution récente du livre de Patrick Coste, L'éducation face à l'impossible, publié aux éditions Delga. Merci à Coraline Camebrac, la réalisatrice de cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, fidèles ou nouveaux auditeurs. Rendez-vous maintenant jeudi prochain. À bientôt.